Ariane Ayad, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes gérante action européenne chez Edmond Rothschild Asset Management. On va parler avec vous de rémunération des dirigeants et puis également de tout ce qui se passe en matière d'ESG. Alors c'est vrai qu'on est un peu après la COP 26, qui n'a pas forcément été en tout cas un succès, mais c'est vrai qu'on parle de plus en plus ces sujets. Les investisseurs en parlent de plus en plus. Il y a des prises de position. Comment ça évolue justement dans ce domaine-là, sur cette partie précisément?
Alors effectivement, les sociétés ont conscience de ces enjeux. Aujourd'hui, quand on leur parle, elles ont évolué sur ces sujets-là. Elles en tiennent de plus en plus compte. Alors évidemment, au début, on avait tous peur des aspects greenwashing, avec une communication assez importante de la part des sociétés et les actions qui ne suivent pas. Et aujourd'hui, on voit que, eh bien, évidemment, il y a des politiques qui se mettent en place, des plans stratégiques et évidemment des objectifs. Et c'est cela réellement qui compte pour nous.
Alors, il y a eu des initiatives internationales hein, sur ce sujet, comme une initiative SBT dont on va parler. Qu'est-ce qu'on trouve dedans et quel est l'objectif justement qu'on peut trouver pour les entreprises aussi?
Alors, oui, quand on parle des objectifs des entreprises, on a justement donc ce Science-Based Target de SBT dont on parle, qui est une organisation internationale qui permet en fait de valider les objectifs, notamment les objectifs environnementaux, les objectifs en termes de réduction des émissions de CO2 de la part des entreprises. Et donc, quand une société émet des objectifs, elle doit les faire valider. En tout cas, nous, en tant que gérants, nous préférons que ces objectifs-là, pour qu'ils soient concrets, qu'ils fassent du sens, soient validés par une organisation comme le Science-Based Target.
Ça veut dire aussi au-delà du conseil d'administration, au sein de l'entreprise, de bien sûr de la direction RSE, que si j'étais administrateur, en tant qu'administrateur de l'entreprise, ces sujets-là aussi, je dois me les approprier et ils vont être aussi dans mon scope quelque part.
Tout à fait. Alors, évidemment, aujourd'hui, quand on a un conseil d'administration, donc on a cet organe de gouvernance qui est extrêmement important pour nous, actionnaires, investisseurs. On veut d'ailleurs que ce soit un organe qui est suffisamment indépendant, puisque c'est un organe qui doit aussi surveiller, un organe de surveillance de l'exécutif, hein, des CEOs de ce monde. Et donc, on veut absolument que ces conseils d'administration tiennent compte de ces objectifs financiers, des objectifs financiers, de l'exécution financière des sociétés, mais aussi des objectifs extra-financiers. Et d'ailleurs, ce qui se passe actuellement, c'est que la Commission européenne prend ces sujets très à cœur et veut justement aller au-delà des paroles et cherche à voir comment elle pourrait mesurer ces impacts-là et ça pourrait éventuellement passer par des objectifs concrets et par une mesure de ces objectifs qui passe par la rémunération, donc tenir compte de ces critères-là dans la rémunération des dirigeants des entreprises.
Aujourd'hui, on peut déjà dire que certaines entreprises arrivent à mener de front la réduction du CO2, la féminisation des instances dirigeantes. On sait que c'est un sujet récurrent et qui voilà, n'est pas encore loin d'être réglé. Et puis, plus de produits, entre guillemets, verts dans leur organisation, dans leur production.
Oui, tout à fait. Quand on regarde nos sociétés, et je pense que là-dessus, la France est plutôt en avance, est plutôt motrice sur ces aspects-là. La France a une longueur d'avance sur la féminisation des conseils. Alors évidemment, ça a été poussé par la loi Copé-Zimmermann, par exemple, qui a imposé des quotas, en tout cas une évolution progressive sur des quotas de femmes au sein des conseils d'administration. Aujourd'hui, on peut réellement en être fier, puisque au sein des entreprises françaises, on a 47% de femmes au sein des conseils d'administration et c'est loin devant l'Allemagne qui est autour de 35% ou des autres pays européens. Donc là-dessus, on voit réellement une évolution qui va dans le bon sens. Après, quand on regarde aussi ce qui se fait donc, sur ces objectifs d'émissions de CO2, donc de réduction d'émissions carbone, on a réellement des objectifs qui se mettent en place. Et nous, je dirais qu'on est très attentif aux objectifs long terme, évidemment, mais aussi aux objectifs de moyen terme. Et c'est en cela qu'on veut mesurer la progression des managements en place dans leur politique avec des objectifs intermédiaires, c'est-à-dire des objectifs à 4, 5, 6, 7 ans pour pouvoir mesurer justement dans une première phase où va la société, si les politiques qu'ils mettent en place dès aujourd'hui vont avoir un impact à moyen terme.
Alors, on parle aujourd'hui effectivement de l'évolution de l'analyse financière. Là, on parle avec vous de l'analyse extra-financière, mais c'est vrai qu'il y a eu de moins en moins d'analystes à cause de MiFID. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais ce n'est pas le sujet. Mais est-ce que vous avez besoin, vous, justement, d'aller chercher des analyses indépendantes, puisqu'on sait que les entreprises font des rapports RSE, communiquent beaucoup sur ces sujets-là. Mais après, comme vous dites, il faut aller vérifier concrètement. Donc, comment on va pouvoir vérifier la réduction de CO2 avec des moyens concrets?
Alors, c'est une question très intéressante. Alors, nous, chez Edmond Rothschild Asset Management, on a la chance d'avoir une équipe en interne réellement dédiée au sujet ISR. On se repose énormément sur cette équipe qui note, qui épluche tous les rapports de développement durable des sociétés, qui dialogue en permanence avec les directeurs de développement durable, avec les départements de ressources humaines et autres, et qui nous permettent en fait d'avoir une indication et un rating sur les aspects ESG de ces sociétés-là. Après, de manière plus générale, on a beaucoup d'agences de notation extra-financière qui notent de plus en plus de sociétés. On peut parler d'agences comme Sustainalytics, comme MSCI, ou encore comme Ethifinance en France, qui font ces analyses pour nous, gérants, qui épluchent les objectifs des sociétés et qui voient évidemment la performance, l'évolution d'un point de vue E et S notamment au sein de ces sociétés-là. Et pour nous, ce sont de très bons indicateurs et ça nous permet également à nous en tant que gérants de nous positionner et de nous engager auprès des sociétés. Parce que c'est en s'engageant, en dialoguant en permanence avec eux qu'on va pouvoir les faire évoluer vers de meilleures pratiques de gouvernance, de meilleures pratiques en termes de social, mais également des meilleures pratiques environnementales.
Alors, on a vu des actionnaires aller notamment sur des groupes pétroliers ou d'autres groupes, effectivement, dire un certain nombre de choses. Mais est-ce que est-ce que vous avez déjà vu des évolutions justement sur cette analyse extra-financière, c'est-à-dire que au lieu d'avoir le résultat financier et tel ou tel élément pour la rémunération du dirigeant, des principaux dirigeants, est-ce que vous avez pu voir déjà des éléments extra-financiers se mettre, en plus dans effectivement le package global?
Tout à fait. Ce sont des points sur lesquels nous sommes très attentifs et nous commençons à les voir évidemment au sein des rémunérations des dirigeants. En France, on le voit de plus en plus. Alors, on a des objectifs qualitatifs qui sont ma foi déjà raisonnables, mais on veut avoir des objectifs également quantitatifs. Pour nous, le meilleur mix, c'est d'avoir des objectifs qualitatifs et quantitatifs avec un suivi de cette rémunération sur ces objectifs de développement durable. On le voit aujourd'hui, c'est très bien expliqué au sein de sociétés comme L'Oréal, par exemple, qui fait très bien le job sur justement l'alignement de la rémunération de ses dirigeants sur ses KPI, sur ses indicateurs ESG. On a d'autres sociétés comme Schneider Electric ou encore comme Rémy Cointreau qui le fait bien aussi.
Vous diriez, pour conclure, qu'aujourd'hui, si une entreprise, même qui ne soit pas dans l'armement, dans le pétrole, dans les sujets, on va dire, du moment liés à l'environnement, mais qui reste sur ses critères financiers, qui n'évolue pas assez sur la partie extra-financière qu'on vient d'évoquer ensemble, finalement, pourrait à un moment donné voir des investisseurs se retirer ou en tout cas changer d'état d'esprit avec elle.
Tout à fait. Je pense que vous avez tout à fait raison sur ce point-là. On voit que les gérants, les sociétés de gestion sont de plus en plus attentifs à ces sujets-là. On a de plus en plus de fonds ISR. On voit d'ailleurs les flux aller dans ce sens-là, vers de plus en plus de fonds ESG labellisés avec des labels comme le label ISR en France. Et donc, ces sociétés-là pratiquent l'exclusion sur soit certains secteurs qui pourraient être un peu trop émetteurs en termes d'émissions émissions de gaz à effet de serre ou carrément des sociétés qui sont trop mal notées. Nous, c'est notre cas également sur certains fonds de la maison, avec si des notations sont insuffisantes d'un point de vue ESG, avec des politiques qui ne sont pas prises au sérieux, des points sur environnementaux qui ne sont pas suffisamment pris au sérieux par les managements, et bien ces sociétés-là sont sanctionnées en interne sur leur rating ISR et sont du coup ininvestissables pour nous. C'est vrai que pour nous, quand on parle de performance financière ou extra-financière, il faut savoir que la performance extra-financière, on ne la regarde pas uniquement pour la beauté du rating, on veut également qu'elle induise un excédent de performance boursière. C'est-à-dire que pour nous, faire de l'engagement, c'est aussi un moyen d'améliorer ce rating qui peut se transformer à un moment donné par une expansion des multiples de valorisation de la société.
Merci beaucoup, Ariane Hayat, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.